en Angleterre. Oscar Wilde, 1845-1900, profite de son extrême aisance d'écriture pour s'attaquer à tous les genres, aussi bien au roman, le portrait de Dorian Gray, 1891, qu'au théâtre, Il importe d'être constant, 1894. Auteur à succès, il se retrouve ruiné et abandonné, physiquement déchu par 2 ans de travaux forcés après la condamnation judiciaire que lui vaut son homosexualité dans la prude Angleterre victorienne. Dans le domaine du roman, Rudyard Kipling, 1859-1930, et Somerset Maugham, 1874-1965, connaissent une célébrité mondiale. George Bernard Shaw, 1856-1950, s'inspire du théâtre d'Ibsen et consacre au maître norvégien une étude expliquant l'importance de l'analyse sociale dans l'œuvre naturaliste.
Le saviez-vous ? Dandy et décadent. Paul Bourget définit en 1883 la décadence en France dans ses essais de psychologie contemporaine. L'étude porte sur les écrits de Stendhal, Taine, Renan et Baudelaire, marqués par une nette tendance à noircir la réalité, à en renforcer les côtés les plus sombres. Cette vision sera reprise, voire revendiquée, par Huysmans, d'abord adepte du naturalisme avant de publier, en 1884, le roman symbole de la décadence, À rebours. Son héros, Des Essaintes, dernier rejeton taré d'une lignée aristocratique, se consume dans un ennui mortel, vainement troublé par des tentatives vouées à l'échec pour y échapper. Villiers de l'île Adam incarne une tendance particulière du dandysme littéraire, fortement influencé par les récits de Poe, fondés comme eux sur une dimension fantastique.
Le symbolisme. Pour le symbolisme, la réalité extérieure est un masque rendant impossible toute description. Le poète doit chercher un au-delà des impressions qu'il peut invoquer et non décrire. C'est en partie une réaction contre le positivisme. En France. À la suite de Baudelaire, Rimbaud et Verlaine, les auteurs de la seconde moitié du XIXe siècle, Jules Laforgue, Maurice Maeterlinck et Albert Samain s'inscrivent dans ce mouvement dont les deux figures principales sont toutefois Verlaine et Mallarmé. Paul Verlaine, 1844-1896, est considéré comme le père de cette nouvelle école dont le manifeste est publié par Jean Moréas, 1854-1910, dans Le Figaro, 1886. Premier recueil de Verlaine, Les poèmes saturniens, 1866, traduit l'influence directe à la fois de Baudelaire et du Parnasse qu'il fréquente alors. Après un éphémère bonheur conjugal, il rencontre Rimbaud et vit en sa compagnie 2 années d'errance, 1871-1873, qui donne naissance à Romance sans parole, 1874. Prématurément vieilli par un recours excessif à l'alcool, il tente un impossible retour à une poésie apaisée, Sagesse, 1881, avant de sombrer. Stéphane Mallarmé, 1842-1898, recherche dans la poésie les signes qui vont permettre de suggérer l'idéalité. Le poète est perpétuellement déchiré entre la certitude d'un idéal qu'il entrevoit, l'azur, et la presque totale impossibilité dans laquelle il se trouve de rendre compte de celui-ci. Mallarmé travaille ses vers pour en rendre la syntaxe parfaite, l'alléger jusqu'au moment où les mots et leurs constructions doivent s'effacer devant l'œuvre pure, tentative trop souvent vouée à l'échec, le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui, un coup de dé jamais n'abolira le hasard. En Allemagne. Le symbolisme, dans sa volonté de réserver à l'art un domaine inaccessible au vulgaire, est représenté par Stefan Jorg, 1868-1933, qui prône une vision poétique intérieure rendue hermétique par le langage. Le poète modèle toute son existence sur cette aspiration, retirée du monde de l'Allemagne impériale qui ne lui inspire que dégoût et mépris pour son culte des valeurs matérielles. Son œuvre évolue vers un mysticisme croissant. En Autriche. L'influence de Stefan Jorg est perceptible dans les écrits de Rainer Maria Rilke, qui fuit la médiocrité du monde environnant en se retirant vers 1920 dans une tour. Son œuvre suit 3 courants principaux, le romantisme des débuts, le symbolisme de la maturité, puis l'angoisse eschatologique, Sonnez à Orphée, 1923. Son compatriote Hugo von Hofmannsthal parvient à réconcilier l'aspiration poétique personnelle et la vie quotidienne. Après avoir accordé une place essentielle à la forme poétique pure, il se tourne vers une fructueuse collaboration avec le musicien Richard Strauss, compositeur pour lequel il rédige le livret du Chevalier à la Rose, 1911.
N'oubliez pas, à la recherche de Marcel Proust. Irréductible aux différents courants romanesques de son temps, Marcel Proust publie en 1913 le premier volume de « À la recherche du temps perdu », intitulé « Du côté de chez Swann ». La minutie avec laquelle la société de la Belle Époque est observée est prolongée par la profondeur de l'analyse psychologique. Proust est très influencé par les recherches de Bergson sur le temps, la conscience et la vie intérieure. La sensation, tissu premier du souvenir, est difficile à cerner, plus encore à relier à d'autres pour former une mémoire. C'est pourquoi il attribue une importance si grande à la madeleine, trempée dans le thé, dont la saveur fait brusquement affluer à sa mémoire une partie de son enfance à Combray. Son œuvre marque une conception particulière du temps. Aucune chronologie précise ne peut être définie, tant sensations présentes et souvenirs sont mêlés, avec des personnages qui vivent à la fois dans l'instant, le souvenir et l'attente.
Dadaïsme et surréalisme. Les atrocités liées à la Première Guerre mondiale mettent fin à l'optimisme qui prévalait à la fin du XIXe siècle. Désormais, l'homme de science peut être un producteur de mort et non un pasteur bienfaiteur de l'humanité. Dès lors, pourquoi croire encore en l'homme ? Deux courants littéraires de l'immédiate après-guerre répondent à cette question. D'un côté, Dada, terme absurde qui ne veut strictement rien dire, volontairement emprunté au vocabulaire enfantin, dénonce l'intolérable d'une condition humaine dépourvue de sens, débouchant sur le nihilisme. De l'autre, les surréalistes veulent percer, au-delà du réel et de ses apparences, la vérité d'un sens qui, spontanément, nous échappe totalement. Le dadaïsme. Le dadaïsme souhaite l'abolition de toute loi formelle et de toute règle, aussi bien dans la littérature que dans les arts. L'artiste doit rendre dans son œuvre l'absurdité du monde contenue dans ce mot polysémique qui est d'abord un vocable enfantin, dada. Le mouvement est lancé en 1916 par Tristan Tzara, français d'origine roumaine. Tzara utilise l'absurde, l'obscène, se livre à l'écriture de poèmes simultanés et lance les expositions de ready-made, objets utilitaires quotidiens, afin de prouver que c'est par un artifice conventionnel qu'un objet est jugé et reconnu comme culturel. Ses principales œuvres sont « L'homme approximatif » 1931, « L'antithète » 1933 et « Le cœur à gaz » 1938. Le surréalisme. On doit le terme de surréalisme à Guillaume Apollinaire, qualifiant ses Mamelles de Tirésias de drame surréaliste au sens d'expérience artistique transcendant le réel. Aux yeux des surréalistes, le monde visible n'est qu'une infime partie d'une réalité supérieure beaucoup plus vaste et profonde. Certains aspects précurseurs peuvent être trouvés dans l'œuvre de Franz Kafka pour le passage de la fiction au monde des pressentiments, ou dans celle d'Alfred Jarry pour le recours à l'absurde comme révélateur. Groupé autour d'André Breton, de Paul Éluard et de Louis Aragon, inspiré par le freudisme, ils veulent aller au-delà de la traditionnelle opposition entre rêve et réalité par des moyens allant de l'hypnose à la folie, de la semi-conscience aux visions. Parmi leurs pratiques figurent l'écriture automatique, les cadavres exquis ou les rêves éveillés.
Un peu de technique. Littérature et manifeste. En mars 1919, Breton, Aragon et Soupeau fondent la revue Littérature, qui rompt en 1920 avec le dadaïsme. Breton rédige le manifeste du surréalisme en 1924. Nous n'avons rien à voir avec la littérature, mais nous sommes très capables, au besoin, de nous en servir comme tout le monde, déclare Antonin Artaud. Selon Breton, le ressort ultime de l'expérience surréaliste est le désir, qui mène à la connaissance. Le mouvement évolue vers l'action politique. Aragon revient converti au communisme après un voyage en URSS en 1931. Après 1945, le mouvement se manifeste moins dans les revues toujours nombreuses comme médium, le surréalisme même, la brèche, etc., que dans les expositions, notamment celle de la Galerie Mag de 1947. Le surréalisme organisé se dilue peu après la mort d'André Breton, en 1966.
L'existentialisme. L'existentialisme est essentiellement connu comme mouvement philosophique, mais il s'est traduit également par un courant littéraire après 1945, à l'initiative de Jean-Paul Sartre, lui-même propagateur et rénovateur de l'existentialisme philosophique. L'existentialisme est un humanisme. Outre Sartre et ses écrits, Les Mouches ou Huis clos, ce courant est illustré par des auteurs comme Albert Camus avec L'étranger, La peste, La chute, ou Boris Vian, auteur de L'écume des jours et de L'arrache-cœur. L'existentialisme met en scène la contradiction fondamentale d'un homme qui se croit maître de ses actes et de sa propre vie, alors qu'il n'agit réellement ni sur lui, ni sur le monde. C'est à une lecture tragique et pessimiste de l'existence et de la trame de nos vies que nous convient les auteurs. Le nouveau roman. Le nouveau roman est une nouvelle forme de création romanesque apparue dans les années 50, caractérisée par l'effacement des personnages au profit des objets, l'absence d'intrigue et le refus de tout support chronologique. Le lecteur est invité à prendre une part active dans la constitution de l'univers romanesque. Chaque détail du décor peut amener un développement indépendant de l'action. L'expression de « nouveau roman » est due à un critique du Monde, rendant compte en 1957 de La jalousie, livre d'Alain Robbe-Grillet, et de Tropisme de Nathalie Sarraute. Ce courant littéraire est également à l'origine d'une grande partie de la production de Claude Simon avec Le vent, L'herbe ou La route des Flandres. La seconde moitié du siècle voit l'apparition du premier best-seller avec Bonjour Tristesse, 1954, premier roman de Françoise Sagan, alors à peine âgée de 18 ans.
Le saviez-vous? Des chiffres et des lettres. Le prix Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires décernés, est gage de célébrité, plus ou moins durable, mais aussi d'un tirage important du livre lié à l'engouement du public pour l'œuvre consacrée. Créé le 21 décembre 1903 par Edmond de Goncourt, le Goncourt, qui devait perpétuer sa pensée et celle de son frère Jules, récompense le meilleur ouvrage d'imagination en prose paru dans l'année. En 1908, le Goncourt ne fut épuisé qu'au bout de 12 ans. Il était tiré alors à 3000 exemplaires. Aujourd'hui, le prix existe toujours grâce à l'héritage d'Edmond de Goncourt et à une subvention de 18 000 euros versée au lauréat. Décerné au début du mois de novembre après les délibérations du jury lors d'un déjeuner au restaurant Drouin, il est désormais tiré entre 120 000 et 500 000 exemplaires.
La littérature contemporaine. Après le nouveau roman, plus aucun courant littéraire au sens strict du terme ne parvient à émerger. La littérature évolue davantage autour d'individualités qui créent un univers qui leur est propre, au sein duquel le lecteur aime à évoluer. De Mario Rigoni-Stern à Jacques Abeille, d'Amélie Nothomb à Michel Houellebecq, ou du plus consensuel au plus polémique. Les thèmes éternels y reviennent, de la sexualité, Christine Angot, à l'amour, Nathalie Reims, du corps au sentiment. Il est trop tôt encore pour en dégager des lignes directrices, et il serait vain ici d'infliger une liste de noms d'auteurs et de titres. Les genres littéraires. Par genre littéraire, nous entendons un ensemble de conventions plus ou moins respectées par les auteurs. Ce sont des divisions liées à la façon d'écrire, à l'aspect formel de l'écriture. Les grands genres littéraires retenus ici sont la poésie, le théâtre, le roman et l'autobiographie. La poésie. Les premières manifestations de la poésie en Occident remontent à la Grèce antique, aux alentours du 7e siècle avant Jésus-Christ. La poésie est alors considérée comme étant d'origine divine. Le poète ne fait qu'écrire sous la dictée de la muse. « Poète, prends ton luth et me donne un baiser », ainsi que l'écrira Alfred de Musset dans ses Nuits. Il existe plusieurs sortes de poésie, épique, lyrique et didactique.
Un peu de technique. Des vers au maître. L'alexandrin est le maître le plus utilisé dans notre poésie. Depuis le XVIe siècle, on le considère comme le mieux adapté à toutes les formes de poésie. Les vers de 10 pieds, dit décasyllabes, ou de 8 pieds, dit octosyllabes, ont été particulièrement utilisés au Moyen-Âge. Les pieds sont l'équivalent des syllabes, Ces vers conviennent aussi à la chanson de Geste, au conte en vers de La Fontaine, comme aux épîtres de Voltaire. Les vers de six pieds, dit Hexastyle, ne s'emploient que dans le genre lyrique.
La poésie épique. La poésie épique, sans doute à l'origine orale et chantée par les Aèdes, sorte de troubadours, persiste jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ. L'épopée conserve le souvenir d'un événement historique transformé par la légende. Les actes humains sont magnifiés et porteurs de valeurs indispensables à la société. Les comparaisons grandioses mettent les hommes au même niveau que les forces de la nature. Les premières poésies épiques puisent leur source d'inspiration dans les légendes. Œdipe, la guerre de Troie, les 12 travaux d'Hercule. Le but de cette poésie est avant tout de divertir les héros après la bataille, non de les exciter ou de les préparer avant le combat. Les poèmes épiques d'Homère sont les textes grecs les plus anciens qui nous soient parvenus.
Le saviez-vous? Garçon, un vers. La poésie française repose traditionnellement sur des unités rythmiques et typographiques, appelées vers, disposées en groupes appelés strophes. La versification est l'ensemble des règles techniques qui régissent la composition des vers réguliers. Le décompte des syllabes, et l'emploi qui en est fait, sont ainsi soumis à des règles précises. Celles-ci ont été fixées au XVIIe siècle par Malherbe et Boileau et mises en application jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le vers en prose prend alors une place importante, notamment à l'initiative de Baudelaire avec ses petits poèmes en prose, publiés en 1862, avant que ne s'affirme le vers libre qui s'exonère des règles traditionnelles.
La poésie lyrique. La poésie lyrique est à l'origine chantée, accompagnée d'une lyre. La musique y est inséparable de la poésie, sous forme de courtes chansons. À l'hexamètre épique, vers de 8 pieds, succède le dimètre élégiaque, vers de 4 pieds, puis l'iambe, mis en valeur par Archiloque, un auteur satirique. Son origine est à chercher au 7e siècle. En pays d'Éoli, Asie mineure, la poésie garde un caractère de confidence personnelle. La poétesse Sappho, 625-580, chantant avec sincérité les tourments amoureux et les passions. Sa poésie est extrêmement appréciée de ses contemporains. Solon avait appris ses vers par cœur. À toutes les époques, la poésie lyrique garde les mêmes thèmes. L'amour, la mort, la peur, la douleur. Un temps étouffé par la doctrine classique et la raison au XVIIIe siècle, les poètes lyriques reparaissent au XIXe dans la figure de marginaux et de poètes maudits, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud.
Le saviez-vous? Un langage universel. La poésie n'est pas le seul fait de l'Occident. Les sentiments exprimés, de la gloire des héros à l'amour du corps ou de l'esprit, sont non seulement éternels, mais transcendent largement les espaces géographiques et les civilisations. La poésie chinoise atteint son apogée sous le règne des Tang, qui dure de 618 à 907, avec Wang Po, Yang Qiong, Lu Chaolin et Lo Pin Wang. Abu Nuwas, au 8e siècle, est tenu pour l'un des plus célèbres poètes du califat abbasside de Bagdad. Sa forme poétique est nouvelle. Il délaisse les poèmes chantés traditionnels du nom de Qasida pour une composition plus libre, exprimant une critique de la vie bédouine. Sur le ton, c'est une expression très évoluée de la satire Hija, déjà très prisée auparavant. Omar Khayyam, mathématicien et astronome du XIe siècle, écrit en langue persane des quatrains, où chacun d'entre nous voit le reflet de ses propres pensées, déceptions et sentiments. L'homme, à ses yeux, a bien peu d'importance. D'où venons-nous? Où allons-nous? Nul ne le sait. Il développe un pessimisme satirique dans les Roubayas, des quatrains épigrammatiques où il se moque de lui-même. Bahar, auteur du début du XXe siècle, est considéré comme le plus grand poète persan moderne. L'inspiration de ses sujets puise dans la vie contemporaine, sociale et politique, et sa forme se coule sur les modèles occidentaux. Mais il se consacre aussi à l'étude des textes persans anciens. La littérature et l'érudition sont aussi à l'honneur dans l'Empire moghol, qui réunit musulmans, hindous, Sikh, Jain, chrétien autour de discussions religieuses. Vivant à Bénarès, Tulsidas est le plus grand poète du XVIe siècle, s'exprimant en langue hindi. Il donne une nouvelle version de l'épopée de Rama, le Ram Charitmanas, et rédige de nombreux poèmes religieux. Le haïku, petit poème composé de 5 syllabes, apparaît au Japon au XVIe siècle. Il comporte toujours une référence à la nature, son but étant de nommer directement les choses. Sa structure suit en général cet ordre. Les deux premiers vers présentent un fait ou évoquent un lieu. Et au dernier intervient une chute, un élément inattendu. Matsuo Basho est le grand maître du haïku au XVIIe siècle.